va prendre des nouvelles de ce qu'on appelle l'ascenseur social. Comment va-t-il? Eh bien, on pourrait penser que l'évolution de la société, le développement économique ou encore l'accès à la formation ont permis de faciliter le passage d'une classe sociale à une autre, que, par exemple, un fils d'ouvrier avait de nos jours plus de chances de grimper dans l'échelle sociale qu'au siècle dernier. Eh bien, on va le voir, il n'en est rien ou pas grand-chose. D'après une étude réalisée par une sociologue lausannoise au XXe siècle en Suisse, la mobilité sociale n'a que très peu évolué. Les inégalités entre classes se reproduisent encore et encore. Bonjour Julie Falcon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez mené cette étude dont je viens de parler. Vous êtes sociologue et enseignante à l'Université de Lausanne. Et vos conclusions, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas très optimistes. En clair, si on vient d'une classe sociale plutôt modeste, fils d'ouvrier par exemple, on risque bien d'y rester. C'est quoi? C'est l'ascenseur social qui est resté coincé, c'est ça?
Bah, disons que d'une manière générale, la classe sociale, le milieu social dans lequel on est, a une importance vraiment forte sur la destinée sociale des individus. Donc effectivement, le fait de venir d'un milieu social ouvrier, mais aussi de venir d'une classe sociale privilégiée, facilite le fait de rester dans cette même classe. Dans le cadre de mes études, de mes recherches, j'ai analysé la mobilité sociale au cours du XXe siècle, donc en analysant différentes générations, la destinée sociale de différentes générations, que ça soit les personnes nées au début du XXe siècle jusqu'aux personnes nées à la fin des années 70. Et ce que j'ai observé, c'est en fait une grande stabilité dans les taux de mobilité sociale, donc dans les possibilités d'ascension sociale, mais aussi de déclassement social. Et également dans les perspectives de rester dans une même classe sociale. Donc ce qu'on observe concrètement, c'est qu'environ 40% de la population grimpe l'échelle sociale, donc oui. C'est quand même pas négligeable. On observe également en parallèle 20% de personnes en déclassement social, donc
qui changent de classe mais vers le bas, oui.
Voilà, qui descendent l'échelle sociale. Mais en parallèle, on constate une grande stabilité dans ce qu'on appelle la reproduction sociale, donc le fait de rester dans la même classe sociale.
Donc, si je fais bien le calcul, ça veut dire qu'il reste 40% qui stagne, ouais.
Absolument. Donc ça a très peu évolué au cours du XXe siècle. On constate quand même un petit peu sur les générations les plus anciennes, nées au début du XXe siècle, une légère augmentation des perspectives d'ascension sociale, mais ensuite, à partir des personnes nées dans les années 30, 35, les perspectives d'ascension sont restées à peu près les mêmes.
Est-ce que quand même l'accès aux hautes études, l'accès à l'université qui s'est démocratisé entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, est-ce que ça n'a pas changé la donne un peu quand même?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui accèdent aux études supérieures, notamment à l'université.
Les fils d'ouvriers à l'université, on en voyait très peu, j'imagine, au début du XXe siècle.
Oui, absolument. Sauf que si on regarde proportionnellement, l'accès à l'université, c'est surtout démocratisé pour les personnes issues des classes supérieures. Donc, effectivement, il y a un peu plus de personnes issues d'un milieu social ouvrier qui accèdent à l'université, mais pas en aussi grand nombre que les personnes issues des classes favorisées. Et on voit ça vraiment bien sur les générations les plus récentes, que la démocratisation de l'accès à l'université, c'est surtout favoriser les personnes issues des classes privilégiées.
Donc, si je résume, deux personnes avec le même niveau d'études, mais qui proviennent de classes sociales différentes, fils de médecin ou fils d'ouvrier, à la fin, ces personnes n'ont pas les mêmes chances d'accéder aux meilleures conditions sociales. Au fond, le fils d'ouvrier restera plus bas que le fils de médecin, même
Absolument.
Si les deux ont fait des études. Ouais.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai observé aussi dans mes analyses. Par exemple, quelqu'un qui est diplômé d'un apprentissage n'aura pas forcément les mêmes chances de grimper l'échelle sociale ou d'arriver aux meilleures positions sociales si il est issu d'un milieu social ouvrier ou s'il est issu d'un milieu social favorisé.
Vous avez été étonnée par vos conclusions, Julie Falcon?
Oui et non, dans le sens où la plupart des études internationales qui ont été menées sur cette thématique concluent à peu près à la même chose dans les autres pays occidentaux, à l'exception peut-être de la Suède et d'autres pays nordiques qui sont connus pour être assez égalitaires, avoir des politiques sociales assez redistributives qui permet effectivement une société plus égalitaire de ce point de vue-là.
Là, on aborde déjà les causes. Hein. Vous dites politique sociale plus redistributive. C'est ça qui manque à la Suisse. C'est ce qui explique cet ascenseur social qui est resté un peu coincé?
Alors, on pourrait effectivement évoquer les politiques sociales. Un des premiers facteurs, de mon point de vue, c'est le système éducatif en Suisse qui vraiment sélectionne très tôt les individus dans des filières très segmentées.
Oui, des 10-12 ans. Ouais.
Absolument. Donc, effectivement, il faut choisir très tôt son orientation. Et plus on choisit tôt son orientation, plus l'origine sociale a une influence, plus effectivement l'école a des difficultés à égaliser les chances entre les individus des différents milieux sociaux. Donc de ce point de vue-là, on sait que plus on recule l'âge de la sélection, plus les inégalités diminuent, l'inégalité des chances diminue. Ça c'est un premier facteur. Un autre facteur, c'est aussi que même des élèves qui ont le même des bonnes notes, mais qui sont issus de classes populaires différentes, ne s'orienteront pas autour des mêmes filières. Donc quelqu'un qui est issu d'une classe populaire ira plutôt vers l'apprentissage, même s'il a des très bons résultats.
Ça c'est quoi? C'est l'héritage familial qui lui dicte ça?
C'est plutôt un calcul rationnel et une forme d'autocensure aussi, dans le sens où le coût d'aller au gymnase puis continuer à l'université, le coût financier mais aussi psychologique quelque part, est beaucoup plus élevé pour quelqu'un qui vient d'une classe populaire, dans le sens où si je viens d'une classe populaire, je vais dire effectivement, mais ma famille n'aura pas forcément les moyens de me soutenir pour mes études. Et alors que le coût financier et psychologique pour quelqu'un qui vient d'une classe supérieure est vraiment différent, dans le sens où, en général, les parents de ces enfants ont eux-mêmes fait des études supérieures et pour le coup, ils se projettent tout à fait dans l'idée de faire des études
supérieures. Donc ils s'auto-limitent, ils s'auto-censurent, comme vous venez
quelque
de le
part,
dire.
Ouais. Oui.
C'est assez saisissant comme conclusion. Mm-hmm. Au fond, l'égalité des chances, si j'entends tout ce que vous nous dites, et c'est passionnant, l'égalité des chances n'est pas garantie en Suisse.
Pas du tout, non.
C'est terrible comme constat en 2016.
Oui, je sais que c'est terrible. Effectivement, on a l'impression qu'il y a peu de choses au niveau politique publique qui sont faites pour essayer, d'améliorer la situation. C'est très difficile d'assurer dans les faits l'égalité des chances entières. Mais il pourrait y avoir davantage de dispositifs pour favoriser.
En 30 secondes, ces dispositifs, vous les avez un peu abordés. Vous avez dit qu'il faut peut-être retarder le moment de la sélection. Hein, mm-hmm, on l'a fait trop tôt. C'est aussi pour ça que certains s'orientent différemment. À part ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Typiquement, pour diminuer le coût financier des études, à instaurer un système de bourse universelle pour les personnes issues des classes populaires, ça serait déjà un point dans ce sens-là qui permettrait effectivement de diminuer le coût. Effectivement aussi des programmes plus de peut-être de sensibilisation des enseignants pour qu'ils soient conscients qu'effectivement les décisions d'orientation se font pas de la même manière selon le milieu social des personnes. Donc ça pourrait être des premiers dispositifs. Après, d'une manière plus globale, je vous citais tout à l'heure l'exemple des pays nordiques qui sont connus pour avoir des politiques de redistribution sociale assez fortes et avoir des inégalités salariales au sein de la société beaucoup plus faibles. Donc, réduire tout simplement les inégalités salariales dans la société favoriserait la mobilité sociale, l'égalité des chances, en rendant tout simplement la population plus homogène. Une dernière politique, c'est tout simplement l'accès universel aux crèches, parce que plus on essaye d'harmoniser les chances des individus dès le plus jeune âge, plus on favorise l'égalité des chances, tout simplement.
Bon, puis on regardera vers le nord aussi, vers nos amis scandinaves. Voilà. Merci infiniment, Julie Falcon. C'est vous qui avez donc mené cette étude dont on parle, sociologue et enseignante à l'Université de Lausanne. Bonne journée.
Merci également.